Votre émission matinale a donc repris son rythme habituel, hein, fini l'été, fini les vacances, et peut-être pour vous aussi le retour au travail cette semaine, enfin retour au travail, plutôt au télétravail. Hein, pour lutter contre la propagation du coronavirus, il reste recommandé dans toutes les entreprises où il est possible. Alors faut-il le généraliser, le pérenniser? Va-t-il révolutionner le monde du travail dans les prochains mois, les prochaines années? On va en parler avec un spécialiste en la matière, Jean-Paul Erhardt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert des questions d'organisation du travail, manager chez PeopleSphere, c'est le magazine des RH. Hein. Avant d'aborder toutes ces questions avec vous, un témoignage parmi tant d'autres, hein, celui de Romain, qui travaille dans une grande banque, en télétravail, depuis chez lui, 2 semaines sur 3.
Moi, personnellement, j'en tire surtout du positif. Donc déjà, en productivité. Donc à la maison, il y a peu de nuisances sonores comparées aux open space qui peuvent quand même être bruyants. Mais aussi, personnellement. Donc j'ai le sentiment que le télétravail permet d'avoir un meilleur contrôle de sa journée. Donc il n'y a pas le stress ni le temps qu'engendre le déplacement vers le lieu de travail. Les horaires de travail sont quand même plus souples. Donc on peut s'organiser un peu comme on veut. Ce qui veut dire qu'on a plus de temps à consacrer à ses loisirs ou à la vie de famille. Donc tout ça, pour moi, ça va se traduire par une meilleure qualité de vie et une meilleure hygiène de vie. Donc je me lève un peu plus tard, je prends bien le temps de déjeuner, de me faire à manger le midi, de faire du sport pendant la journée ou dès que j'ai fini le travail.
Bon, vous entendez Romain, hein, Jean-Paul oui. Erhardt. C'est génial le télétravail, il n'y a que des bénéfices?
A priori, individuellement, quand on est dans de bonnes conditions pour pouvoir mettre en place le télétravail chez soi, oui, il y a énormément de bénéfices, individuellement.
On est plus productif?
Oui. Dans les faits, oui. Est-ce qu'on est individuellement plus productif? C'est vérifié, c'est validé, effectivement, la capacité de concentration. J'insiste, à condition que l'on ait les conditions chez soi pour pouvoir travailler dans de bonnes dispositions. Oui, il y a pas énormément de doutes quant à la productivité individuelle. Ouais. Collectivement, c'est une autre affaire.
Bon, alors, est-ce que ça veut dire que il faut profiter, hein, avec des guillemets évidemment, de cette épidémie pour généraliser, pérenniser le télétravail en Belgique?
Mais surtout pas.
Pourquoi?
Non, surtout pas. Pourquoi? J'ai l'impression aujourd'hui, on avance sans boussole, en fait. On est en train effectivement d'avancer en matière de télétravail par nécessité, par réaction d'urgence, mais sans avoir une réflexion de fond sur la manière dont on va s'organiser demain. Et c'est un peu plus général encore que le télétravail, hein, mais aujourd'hui, en fait, le monde du travail est en train de se modifier, il était déjà en train de se modifier, mais on assiste, via l'épidémie, à une accélération de ces tendances, ces évolutions. Alors, le télétravail, on l'avait déjà précisé lors d'une première rencontre, effectivement, c'est un outil qui permet de continuer à individualiser la relation de travail. Donc, permettre à chacun, finalement, d'avoir une organisation qui est optimalisée par rapport à ses besoins propres.
On perd le sens du collectif, quoi, avec le télétravail.
On perd le sens du collectif, on perd le sens de l'appartenance aussi à une entité, et donc, quelque part, avec le télétravail, le risque majeur que nous identifions, c'est ce que j'appelle la dématérialisation du travailleur. Attention.
Dématérialisation du travailleur, ça veut dire que quand on ne le voit plus, on a moins de considération pour lui et, in fine, peut-être, dans les cas les plus graves, on peut le licencier plus facilement parce qu'il n'est plus qu'un nom, qu'un numéro, et c'est plus vraiment un être humain, c'est ça que vous voulez dire?
Il sort du radar, il sort du radar, et on a tendance effectivement à le considérer. J'ai entendu souvent, hein, ça fait 10 ans qu'on travaille sur la terminologie ressources humaines, est-ce qu'on va vraiment parler de ressources humaines? En fait, nous gérons des gens, les gens ne sont pas des ressources. Et il y a un risque de retour en arrière sur ce paradigme-là, hein, de revenir effectivement à la considération de ressources. Donc il y a des dangers au niveau du télétravail qui sont vraiment à prendre en compte, réfléchir avec une vraie vision à long terme, parce que le télétravail, dans une situation telle que celle-ci, c'est une opportunité. Attention, j'insiste, pas pour tout le monde. Mais ceci étant, comment va-t-on organiser le retour au travail? C'est ce moment-là qui est important.
Ça veut dire que les entreprises doivent aujourd'hui peut-être améliorer l'environnement de travail au sein de l'entreprise pour réattirer les travailleurs, les employés dans les bureaux?
Plus que jamais. C'était déjà vrai auparavant. À toutes les entreprises qui se lancent dans une initiative, en matière de télétravail, on leur dit, en fait, bien, considérer le télétravail, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de mettre à l'agenda l'organisation du retour, donner des raisons de revenir au bureau, donc faire en sorte que l'expérience au bureau soit vécue comme une expérience très positive. Et à ce stade-ci, dans la situation que nous connaissons avec l'accélération, il faut plus que jamais insister sur cet élément-là.
Mais comment on fait alors pour réattirer les travailleurs au bureau, Jean-Paul Erhardt?
La première chose, c'est que ça s'organise. Vous ne faites pas revenir les travailleurs au bureau si c'est simplement pour les asseoir dans leur bureau quotidien en disant « voilà, je suis content, tu es présent, visuellement j'ai un repère parce que j'ai pu voir que tu étais là, mais ce n'est pas suffisant ». Donc, pour les faire revenir au bureau, il faut qu'il y ait une bonne raison à cela. Et la raison majeure à ça, c'est justement le travail collectif. Ça veut dire que pour un manager, pour un dirigeant, pour un patron d'entreprise, faire revenir ces travailleurs au bureau, c'est s'en occuper, c'est travailler avec eux, c'est consacrer du temps, c'est investir dans la préparation. C'est tout cela. C'est cela, bien entendu. Mais c'est aussi travailler, effectivement, sur un environnement de travail positif. Et là, on assiste à quelque chose qui est assez intéressant. Hein. C'est l'open space qui était la grande tendance est devenu maintenant un lieu qui est limite anxiogène. Parce que c'est un lieu de propagation. Et donc, c'est très intéressant sur le plan de l'évolution. On va passer par une nouvelle vague en disant est-ce que l'open space va disparaître? Est-ce que l'open space va être aménagé différemment? C'est très, très intéressant ce qu'on est en train de vivre.
Quand le Covid-19 va mettre fin à la mode de l'open space
Je ne suis pas certain, mais je pense qu'on va le penser différemment et on va revenir. L'open space a souvent été conçu, et au fond, c'était une aberration, a été conçu comme un espace qui était un espace indifférencié. Un peu, je vais utiliser une image qui est un peu rude, d'accord, mais un peu comme une batterie de poulet, quoi. On met les gens tous sur un même environnement. Et l'open space ne peut pas être ça, parce que la tendance majeure, effectivement, c'est quoi? C'est l'individualisation de la relation de travail. C'est une approche totalement personnalisée qui permet à chacun de travailler quand il veut, où il veut, comme il veut. Et si l'open space ne permet pas, quelque part, de faire ça, donc d'être conçu de manière multimodale, de permettre à chacun de personnaliser son environnement sans pour autant que ce soit un bureau fermé, ben on rate quelque chose.
Bon, tous ceux qui pestent contre les open space vont retenir votre image. Hein. Batterie de poulet, elle est pas mal.
Ouais, j'imagine.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger avec le télétravail, parfois, c'est qu'il révèle l'inutilité de certains postes, de certains jobs. Hein, on parle de bullshit jobs, hein, de manière un peu vulgaire. Vous avez des exemples? Ça peut arriver, ça, avec le télétravail?
Les bullshit jobs, en fait, c'est... Alors, oui, j'ai déjà entendu ce constat. Et je voudrais vraiment protester violemment aujourd'hui contre ce constat. Pourquoi ? Parce que, en fait, à part créer du désengagement, de l'incertitude, du désœuvrement auprès des personnes qui remplissent des fonctions, ce qu'on appelle beaucoup, en fait, des fonctions transversales, ce qu'on appelle des fonctions support. C'est quoi, en fait, ces fonctions support ? Ce sont des gens qui facilitent, ce sont des gens qui permettent, en fait, à des gens qui travaillent sur le processus, des gens qui travaillent sur le contrôle qualité. Alors, attention, hein, je ne m'attaque pas aux responsables qualité, au contraire. Je dis que simplement, ce sont des fonctions qui travaillent, finalement, sur la méthodologie. Et on dit que toutes ces fonctions, type des fonctions d'encadrement ou des fonctions de support, sont considérées comme des bullshit jobs. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le travail, un des éléments essentiels, finalement, dans la manière de l'organiser, dans la manière de faire preuve de leadership, c'est d'avoir une grande capacité à mettre les gens ensemble. On a besoin de ces fonctions, en fait, qui font du lien, qui réunissent les gens.
Ouais. Est-ce que, pour conclure, Jean-Paul Erhardt, on peut dire que idéalement, on devrait... Alors, vous avez dit, il ne faut surtout pas généraliser le télétravail, mais est-ce qu'on pourrait pérenniser le fait que, par exemple, dans les entreprises, on permet aux travailleurs de prendre 2 ou 3 jours par semaine de télétravail? C'est ça le modèle idéal?
Je pense que le modèle idéal, il n'existe pas. Je pense qu'on va arriver à créer des formules très, très innovantes parce que notre structure de vie, en fait, a changé. Disons qu'on met en place un télétravail 2 jours par semaine. Quand vous êtes parent isolé, vous êtes en garde alternée, ça ne vous convient pas forcément? Parce qu'il y a une semaine avec les enfants, une semaine sans les enfants. Et donc, je pense qu'on va aller vers des formules qui vont être encore beaucoup plus flexibles que ça.
Bon, rentrée compliquée pour certains et pour certaines. En tout cas, au bureau, on l'a compris, Jean-Paul Erhardt, et on leur souhaite bon courage.